VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Politique en RDC, l'Union européenne envisage de prendre des sanctions contre le régime de Kinshasa. Elle exige des élections le plus rapidement possible en 2017. Éric Manirakiza.
Les chefs de la diplomatie de l'Union européenne ont convenu de suspendre la délivrance de visas aux détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service. Des individus responsables de graves violations des droits de l'homme ou qui feraient obstacle à une sortie de crise consensuelle seront également visés par des sanctions. Bruxelles appelle à tous les acteurs de la crise congolaise à respecter la constitution actuelle, dont la limitation des mandats présidentiels. Elle encourage un dialogue politique substantiel, inclusif, impartial et transparent, incluant notamment la conférence épiscopale du Congo. Ce dialogue doit notamment déboucher sur l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans le délai le plus court possible, en 2017. Mais le dialogue politique initié par la mouvance présidentielle et une partie de l'opposition entame sa séance plénière. Le mois d'avril 2018 est avancé pour la tenue des élections en RDC. En revanche, l'opposition radicale derrière Étienne Tshisekedi rejette d'avance les conclusions de ce dialogue.
Nous passons maintenant au Burkina Faso. Au Burkina, un nouveau regroupement de 8 partis politiques de l'opposition a été mis en place hier dimanche à Ouagadougou. Ablassé Ouédraogo est le président de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, ou CODER.
Le Burkina Faso est un pays qui est en train de sortir de crise. J'allais dire même qui est toujours en crise. Pour que le Burkina Faso puisse repartir sur le bon pied, il faudra que tous les enfants de ce pays acceptent de se donner la main, de regarder dans la même direction et travailler ensemble en confiance. C'est pour cela que nous avons mis en place la CODER. En plus d'être un cadre de dialogue, de concertation et d'action politique, est également un cadre de recherche de la cohésion sociale, de l'unité et de la réconciliation nationale de tous les Burkinabés. En fait, nous voulons tout simplement répondre aux besoins des Burkinabés qui veulent la paix, la sécurité, la démocratie et la réconciliation nationale. C'est donc un cadre de rassemblement, un cadre qui permettra de développer un dialogue inclusif. C'est pour cela que nous avons lancé un appel au président du Faso pour qu'il accepte de rassembler tous les Burkinabés autour de lui et de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout.
Ablassé Ouédraogo, président de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, ou CODER, au Burkina Faso. Au Niger, la prison de Koutoukale, à 50 km au nord-ouest de la capitale Niamey, où sont détenus les terroristes, maliens notamment, a été attaquée ce lundi par des hommes armés qui ont été repoussés. C'est ce qu'a assuré le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Plus de détails avec Nani Talani.
Les premiers éléments indiquent que les assaillants, dont le nombre reste indéterminé, sont arrivés à l'aube sur plusieurs motos. Ils n'ont pas pu pénétrer dans la prison en raison de la fusillade qui a éclaté avec les militaires. D'après le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, l'ennemi a été repoussé, laissant derrière lui des morts portant des ceintures explosives. L'assaillant, dont le corps était encore sur place en fin de matinée, portait une djellaba grise et avait la tête enturbanée. Il portait une ceinture explosive qui était intacte. Une autre ceinture explosive était aussi visible sur une des 3 motos calcinées. La prison civile de Koutoukale est considérée comme la plus sûre du pays. Les autorités y gardent les détenus les plus dangereux et de nombreux djihadistes. Les contrôles à l'entrée de Niamey ont été renforcés. Cette attaque ratée survient après l'enlèvement vendredi d'un humanitaire américain qui travaillait depuis 24 ans dans la région de Tawa.
Par ailleurs, toujours pas de nouvelles de cet humanitaire jusqu'à présent. Selon le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, les ravisseurs de Jeffrey Woodke seraient des éléments du Mujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui l'ont conduit au Mali. Plus de détails avec notre correspondant Niamey Abdoulrazak Idrissa.
Selon les autorités de Niamey, les ravisseurs de Jeffrey Widke ont franchi la frontière malienne. Ils se seraient dirigés notamment vers Menaka, a déclaré Mohamed Bazoum à l'agence France Presse. Le rapt n'est pas encore revendiqué, mais le ministre nigérien de l'Intérieur affirme que l'humanitaire américain est aux mains du Mujaho, le mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest. En rappel, c'est au soir du vendredi 14 octobre que M. Widke a été enlevé à son domicile d'Abalak, localité située à environ 400 km de Niamey, dans la région de Tawa, frontalière avec le Mali. Ces ravisseurs ont tué le gardien du domicile et un garde national qui assurait la sécurité de l'humanitaire établi là-bas depuis 24 années pour le compte d'une organisation non gouvernementale. Un communiqué du gouvernement nigérien indiquait que des poursuites avaient aussitôt été engagées pour les rattraper. Samedi, le président Issoufou a annulé son voyage à Lomé pour prendre en charge la situation. Il a convoqué une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité et rencontré l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Niamey. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Irak, la bataille de Mossoul a finalement commencé. Un large éventail de forces irakiennes et internationales est engagé dans cette offensive pour la reprise de la deuxième ville du pays. Dernier grand fief du groupe État islamique en territoire irakien. Le point avec Salwa Jafari.
Dès les premières heures de la matinée, des colonnes de véhicules blindés chargés de soldats sont parties vers les lignes de front. La bataille de Mossoul s'annonce ardue.
Aujourd'hui, nous allons nous battre jusqu'à la mort.
Les soldats irakiens, les Peshmerga, les forces iraniennes, les forces turques sont mobilisées, sans oublier la coalition internationale conduite par les États-Unis. Ashton Carter, le patron du Pentagone, est sur place. Situé dans le nord de l'Irak et peuplé majoritairement de musulmans sunnites, Mossoul était tombé entre les mains du groupe État islamique en juin 2014. C'est de là que son leader Abou Bakr al-Baghdadi avait publiquement proclamé son califat. La bataille de Mossoul sera probablement après de longues haleines. L'ONU dit craindre un désastre humanitaire pour les quelques 1,5 million d'habitants dans la ville.
Guerre en Syrie maintenant, les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions dans les prochaines semaines contre le président syrien Bachar al-Assad et ses alliés. Cette décision reflète la frustration de Washington face à l'escalade de la violence, aux violations des droits de l'homme et aux difficultés d'aboutir à un cessez-le-feu durable dans le conflit. Jean-Robert Bion.
Nous poursuivons la diplomatie parce que c'est l'outil dont nous disposons, a affirmé le secrétaire d'État américain John Kerry après une réunion hier à Londres des ministres des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. Je ne vois pas beaucoup d'engouement en Europe pour la guerre, a-t-il ajouté, malgré le peu de progrès réalisés lors de cette rencontre. Les quatre alliés qui se sont réunis à Londres suite aux pourparlers tenus en Suisse entre M. Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov sur les moyens d'avancer en Syrie après l'échec du cessez-le-feu à Alep. John Kerry et ses partenaires français, britanniques et allemands ont pu tout de même s'entendre sur un point, la nécessité d'augmenter la pression sur le régime syrien et la Russie pour que cessent les raids aériens dans la deuxième ville du pays. La diplomatie semble donc la seule option viable alors que Moscou et Damas continuent de frapper les rebelles à Alep, aggravant la crise humanitaire. Ces bombardements ont porté Washington à suspendre les négociations bilatérales avec Moscou sur la Syrie il y a moins de 2 semaines.
Pour terminer la présidentielle américaine 2016, 2 jours seulement nous séparent du troisième et dernier débat télévisé mercredi soir entre les deux principaux candidats, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. D'après les derniers sondages, la course pourrait être plus serrée que ne le croient certains analystes. Gabi Dorsil.
Le dernier sondage national NBC Wall Street Journal donne une avance de 11 points, 48% contre 37%, à l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. En revanche, un autre sondage, ABC News Washington Post, la place aussi en tête, mais avec une avance moins marquée, soit 47% contre 43%. Les accusations de Trump ne font pas l'unanimité dans ses rangs, même si l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a déclaré sur CNN qu'il serait fou de ne pas croire qu'il y aura des efforts dans certaines villes en vue de manipuler le vote du 8 novembre au détriment de Donald Trump. Cependant, le colistier de Trump, fidèle à son tempérament, s'est employé à calmer le jeu. « Nous accepterons bien sûr le résultat des élections », a affirmé Mike Pence sur NBC, assurant que le milliardaire Donald Trump dénonçait avant tout le soutien monolithique des grands médias en faveur de la candidate démocrate. Trump et Clinton s'affrontent dans leur troisième et dernier débat mercredi. M. Trump a suggéré samedi qu'ils devraient tous de subir des tests de drogue avant ce débat à Las Vegas dans le Nevada. Une insinuation à peine voilée et déjà ridiculisée dans la presse que Mme Clinton aurait été sous l'effet de narcotiques lors du précédent débat dans le Missouri.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.